Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Je pense que c'est des réunions de ce type qui sont extrêmement importantes, puis qui, quelque part, sont la raison d'être du déplacement que nous avons fait, parce que l'idée était de témoigner, d'alerter, d'informer. Je voudrais commencer peut-être par dire comment c'est arrivé. Pourquoi je me suis retrouvé comme ça à composer une délégation pour partir à Rafah. Alors en fait, la première personne que j'ai rencontrée, c'était en novembre dernier, c'était assez loin, quelqu'un qui est assez connu puisqu'il est franco-palestinien, qu'il a été longtemps prisonnier en Israël, c'est Salah Hamouri, que moi j'avais rencontré à plusieurs reprises parce que je m'étais mobilisé pour sa libération, et lors de son retour en France, on a rapidement fait des meetings. Et donc il a dû penser que j'étais peut-être la bonne personne pour essayer de monter ce type de projet. Donc il m'a contacté avec certains de ses amis d'Urgence Palestine, qui est un réseau, on va dire, surtout de franco-palestiniens. Et il m'a dit, voilà, ça serait bien quand même qu'on essaye d'aller à Gaza. Bon, j'ai regardé un peu avec des yeux un peu ouverts, parce qu'en novembre dernier, l'atmosphère s'est un peu détendue en France. Enfin, nous, en novembre dernier, on était surtout traités d'antisémites, aussitôt qu'on se permettait de dénoncer les massacres en cours. Bon, donc aller à Gaza, c'était un peu quelque chose qui semblait compliqué, mais je trouvais intéressant, évidemment, la démarche. J'étais assez flatté, d'ailleurs, qu'ils me la demandent, pour être honnête. Et c'est additionné, pour leur rendre hommage, parce que c'est des personnes aussi importantes, à cette démarche, l'ambassadrice de Palestine en France, qui fait un super boulot, qui a été nommé il y a environ un an et demi, deux ans, et qui, elle aussi, a mis tout son poids, et notamment ses relations qu'elle pouvait avoir avec l'Égypte pour ce déplacement. Alors, on a mis beaucoup de temps, puisque finalement, on est parti fin février. Alors, pourquoi avons-nous mis beaucoup de temps? Tout simplement parce que pour aller vers Gaza, parce que l'idée était... On savait très bien qu'on ne pouvait pas rentrer dans Gaza même. Ça, c'est les Israéliens qui le décident. Inutile de dire qu'ils auraient vu de manière enchantée qu'on aille en délégation à Gaza. Mais simplement pour aller à la frontière, il faut traverser le Sinaï. Bon, je pense que vous le savez tous, mais le Sinaï est une zone militarisée et on ne peut pas la franchir sans autorisation égyptienne. Donc en fait, tout ce temps-là, ça a été d'obtenir les autorisations de l'Égypte pour pouvoir traverser le Sinaï. Pas seulement autorisation, mais aussi le fait d'y aller en sécurité, donc avec une escorte, etc. Bon. Donc ça, c'était prévu en novembre. Il y a eu plusieurs fois où on a dit qu'on y allait. À un moment donné, j'ai failli leur faire le coup de partir le 31 décembre. C'était bien. Bon, et finalement, on est parti début février. Je dois dire que je suis ravi qu'on soit parti début février pour une bonne raison. C'est qu'en novembre, quand on a imaginé le déplacement... À ce moment-là, c'était Gaza Nord qui était bombardé. Bon. Et ce que disaient les Israéliens, c'était aux Palestiniens, partez de Gaza Nord, laissez-nous tranquillement bombarder le Hamas, allez sur Gaza Sud, où, quelque part, vous serez en sécurité. Bien. Au bout d'un moment, de Gaza Sud, ils ont dit, allez à Rafah. Rafah, donc, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est coupé en deux. Il y a un Rafah égyptien, côté où on a été, puis un Rafah palestinien côté Gaza. Bien. Et donc là, au moment où on y a été, j'allais dire que toute l'hypocrisie israélienne s'était révélée, puisque en réalité, Rafah, qui était le dernier endroit refuge pour les Palestiniens, au point où ils étaient à peu près à ce moment-là 1 500 000 personnes sur une bande de terre prévue pour accueillir 200 000 personnes, commençait à son tour à être bombardé. Hein. Ça a été bombardé deux jours avant notre arrivée, bon, qui montre bien que la question n'était pas... mais j'y reviendrai, d'éliminer le Hamas, mais la question était bien de s'en prendre à la population palestinienne. Donc, au moment où on y était, en réalité, les bombardements étaient à quelques dizaines de mètres, enfin, peut-être quelques centaines de mètres, mais pas loin. Ils sont interrompus pendant qu'on y était, d'ailleurs. Hein, ils y étaient, la veille au soir, ils ont bombardé, et le soir même, ils ont rebombardé. Qu'on y était, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, les bombardements ont pas eu lieu, mais c'était vraiment de l'autre côté de la frontière. Bien. La deuxième raison pour laquelle finalement la date était une bonne date, c'est que 9 jours avant, il y avait eu la décision de la Cour de justice internationale sur le risque de génocide et l'exigence donnée à Israël d'avoir un mois pour montrer qu'il évitait ce risque. Donc on venait à un moment où justement ce qui était en train de se passer à Gaza commençait à être caractérisé non pas par les Palestiniens, mais par la Cour de justice internationale, qui est quand même la plus haute instance en termes de justice internationale, comme un risque de génocide. Et donc l'exigence du cessez-le-feu était encore plus forte. C'était l'objectif de notre déplacement, c'était celui-là, demander le cessez-le-feu immédiat et durable. Donc tout ça était au niveau de la date, tout ça était finalement parfait et le plus utile. Bon, on y a été, on n'est pas rentré en Gaza. Donc le premier acte qu'on peut dire à quoi ça a servi déjà principalement d'actes symboliques. Parce qu'en fait, avant nous, aucun parlementaire national, de quelque nationalité qu'il soit, avait été à l'endroit où on avait été depuis le 7 octobre. Aucun, d'ailleurs, représentant français non plus. On était les premiers représentants français. Donc l'acte symbolique, c'était d'être là et de témoigner pour le cessez-le-feu et d'être entendu. Entendu par qui ? Nous, on avait envie d'être entendu par les Palestiniens. Ça a été réussi. On a eu le retour. On sait que notre déplacement, finalement, et l'exigence du cessez-le-feu qu'il portait, il a été surtout audible, surtout entendu, surtout répercuté dans tous les pays arabes, en Palestine, dans les pays du Sud, plus qu'en France d'ailleurs, mais c'était déjà le premier objectif. On avait envie, malgré toute l'horreur que vivent aujourd'hui les Gazaouis, mais que quelque part ils se disent, pour certains, y a des gens qui pensent encore à nous dans le monde, quoi, qui viennent là pour le dire. Bon. Donc ça, c'était un premier objectif, on va dire, de répercussion dans le monde arabe. La deuxième objectif, c'était en France, c'est-à-dire de porter un témoignage. Et là aussi, je trouve, très sincèrement, alors là encore, ce n'est pas que nous, j'ai l'humilité de penser que ce n'était pas de notre fait seulement, mais ce que je constate, c'est que quand on est revenu en France, j'ai le souvenir, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, quand nous sommes revenus, on a fait 3 questions au gouvernement successives, les différents groupes politiques qui étaient donc dans ce déplacement, Parti communiste, enfin le GDR plutôt, Europe écologie et écologiste plutôt, et France insoumise. On a fait 3 questions de suite, dans lesquelles, par exemple, tous les 3 ont parlé de génocide. 2 semaines avant, ma collègue Danielle Obono avait fait une intervention en parlant de génocide. Elle s'était fait rembarrer par le ministre des Affaires étrangères de manière assez méprisante. Bon, là, ça a été le silence total. Et à partir de là, le gouvernement a commencé un peu à répondre à nos questions en prenant au sérieux ce qu'on était en train de dire. Alors, je ne dis pas que c'est principalement parce qu'il y avait 27 000 morts. On n'est pas, je veux dire. Mais n'empêche, il y a participé. C'est-à-dire que le fait que des parlementaires français aillent sur place, disent quelque chose, reviennent avec des témoignages, je vais y venir, ça a eu un rôle, je pense, en France, pour j'allais dire, un peu changer l'atmosphère du pays, notamment dans sa classe dirigeante. Et ce que j'observe, c'est que depuis, la France est au moins sur l'exigence du cessez-le-feu, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui est quand même mieux que de proposer une coalition internationale contre les Palestiniens avec Netanyahou. Bon, qu'on fasse ce que Macron avait proposé quelques jours après le 7 octobre. Autre élément qui a été important dans notre rencontre, c'est les rencontres que nous avons faites. C'est-à-dire on a rencontré l'UNRWA, c'est-à-dire l'ONU des réfugiés, qui, j'aimerais tout à l'heure, est très menacée par les arrêts financiers de l'Allemagne, des États-Unis, etc. On a rencontré, je ne vais pas être très long là-dessus, parce que je crois que vous avez eu tout à l'heure Raphaël Pitti, mais on a rencontré les médecins de Palmade qui sortaient en même temps de Gaza où on y était. On était dans notre déplacement et qui nous ont fait les témoignages que Raphaël a dû vous faire tout à l'heure, c'est-à-dire montrant l'horreur, montrant un peuple. Moi, il a dû vous en parler tout à l'heure. Moi, les anecdotes principales dont je me souviens, c'est de nous dire que un tiers des blessés, des personnes blessées qui arrivaient à l'hôpital européen dans lequel ils étaient, l'étaient pour les bombardements et les tirs de sniper, et que dans ces personnes atteintes par des tirs de sniper, il n'y avait pas un seul combattant du Hamas. Il y avait des femmes, des enfants, des vieillards. Bon. Et que c'était donc des tirs voulus, volontaires, sur des victimes, sur des civils, et en plus faits avec des balles, manifestement, qui étaient des balles faites pour blesser, et non pas pour tuer immédiatement, de façon à engorger les hôpitaux palestiniens qui restaient un peu en vie. Ça m'a beaucoup marqué, qui était la preuve de ce que moi je pense depuis longtemps, c'est-à-dire que les victimes civiles ne sont pas des victimes collatérales, c'est la cible principale des Israéliens. La deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué quand on les a rencontrés, c'était tous les 6 en face de nous, et à un moment donné je dis, alors donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a un génocide, il y a un risque de génocide, et les 6 en même temps on dit non, il y a, le génocide il est là, quoi. Bon. Voilà, c'est le genre de témoignage qui... qui, je crois, était important. Donc voilà, ces déplacements, on l'a fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est peut-être, malheureusement, le fait que ce qu'on a vu à ce moment-là et ce qu'on a dit, c'est réalisé depuis. En gros, on se situe au moment où on se déplace 9 jours après la décision de la Cour de justice internationale. Dans la décision de la Cour de justice internationale, il y a la demande que les Israéliens donnent des preuves qu'ils veulent éviter le génocide. Et puis, il y a aussi, quelque part, la demande que les États qui se reconnaissent dans la Cour de justice internationale œuvrent dans ce sens-là. Bon. Et nous, ce qu'on a constaté à ce moment-là, mais c'est ce qui, malheureusement, s'est amplifié depuis, c'est que ce n'est pas Israël qui s'est retrouvé sur la défensive, c'est ceux qui évitent le génocide. Par exemple, l'UNRWA. Bon. Que l'UNRWA, au prétexte israélien que 6 des fonctionnaires de l'UNRWA sur 30 000 étaient mêlés de près ou loin au 7 octobre, sans même apporter aucune preuve, hein, et qu'au nom de ça, les Américains, les Allemands, je ne sais plus quel État, cessent le paiement à l'UNRWA, est quand même absolument terrible, en termes symboliques, mais de conséquences. Surtout l'UNRWA, c'est ce qui reste d'administration et de distribution d'aide alimentaire à Gaza. S'il n'y a plus l'UNRWA, il n'y a plus rien. Bon. Et l'UNRWA, si les cessations de paiement se confirment, alors heureusement la France n'a pas confirmé sa cessation, c'est un désastre annoncé. Et là, ce que je viens de voir, c'est que les Américains, ayant un discours laissant penser qu'ils sont maintenant pour le cessez-le-feu, mais viennent confirmer, les Américains viennent de confirmer le gel des paiements à l'UNRWA. Bon. Donc ça, par exemple, ça m'a marqué, c'est-à-dire que c'est l'Israël qui continue à être en pointe. La deuxième chose qui m'a marqué, bon, et qui quelque part caractérise bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'au moment où on est arrivé, commençaient les bombardements à Rafah. Et depuis, ils ont amplifié les bombardements. Ils expliquent qu'ils vont... Et moi, je pense qu'il faut le prendre au sérieux, parce qu'à chaque fois que Netanyahou a menacé quelque chose, il l'a fait. On peut se dire, c'est fou, il le fait. C'est-à-dire qu'il veut faire une offensive terrestre sur Rafah. Bon, qui là serait une catastrophe totale. Bon, il y a 1,5 million de personnes qui sont en famine alimentaire s'il y a une offensive militaire généralisée. Je vous fais pas le dessin de ce que ça va signifier. Bien. Donc ça aussi, ça montre quelque part que ce que nous on pensait, ce qu'on disait à ce moment-là, se confirme. Troisième élément, dans cette pratique du génocide, le génocide, c'est pas forcément de tuer tous les Palestiniens physiquement. Un génocide, ça peut être d'associer au meurtre en masse, 32 000 morts, plus l'expropriation de plus en plus importante des Palestiniens en Cisjordanie et en Jérusalem. Mais à 32 000 morts, ça associe une autre idée de Netanyahou. C'est que les Palestiniens finissent par partir de Gaza, c'est-à-dire une deuxième Nakba, sans retour. Et là, il n'y a plus de territoire. Un peuple sans territoire, ce n'est plus un peuple. Et là, il y a génocide. Donc ça a bien confirmé, puisque c'est exactement ce que Netanyahou a proposé il y a quelques jours. Bon, voilà. Donc, en gros, le constat que moi je fais, c'est que tout ce qu'on a vu sur la table, malheureusement, se réalise. Et ça veut dire quelque chose, et je vais conclure là-dessus. Après, je laisserai mes amis continuer. Ça confirme quelque chose. C'est que l'objectif de guerre de Netanyahou n'a jamais été celui d'une vengeance ou celui d'en finir avec le Hamas. L'objectif de guerre de Netanyahou, c'était d'en finir avec le peuple palestinien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, si on voulait vraiment en douter, je vous rappelle qu'en septembre 2023, à l'Assemblée générale de l'ONU, après avoir signé un accord avec certains pays arabes, Netanyahou montre une carte, et sur la carte, Gaza et la Cisjordanie sont devenues des entités israéliennes. L'objectif de guerre de Netanyahou, c'est d'en finir avec Gaza comme possible entité territoriale d'un futur État palestinien. Et puis, nonobstant, d'en finir aussi de plus en plus avec les Palestiniens de Cisjordanie en leur rendant la vie impossible. Voilà l'objectif. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis le confirme. Que ce soit, par exemple, à chaque fois qu'il y a une aide alimentaire distribuée, le fait de tuer, de cibler les personnes qui sont en train de faire les aides. Là, il y a eu, j'ai vu avant-hier, il y a eu encore 23 morts personnes qui ont été atteintes dans le camp de réfugiés du nord de Gaza. Il y a deux semaines, c'était une vingtaine. Fin février, c'était plus de 100 morts dans une distribution d'alimentaires. Et il y a aussi un autre élément concret qui montre qu'il n'y a pas de recherche, de débouché quelconque de négociation. C'est que pour négocier, il faut être deux. Bon. Et on sait, par exemple, que dans les possibilités, à un moment donné, de négociation avec les Palestiniens, il y a quelqu'un qui est assez important, qui s'appelle Marwan Barghouti. Bien. Marwan Barghouti est en train, en prison, ils sont en train de le faire mourir. C'est ça, la réalité. Avec des tortures, hein, il le frappe, il lui interdit, il coupe l'électricité, il a perdu 10 kilos, il a une situation qui est la même que celle qu'ils appliquent depuis le 7 octobre aux prisonniers palestiniens. Il y a eu 23 morts dans les geôles israéliennes, plus beaucoup qui ont été tués dans ceux qui ont été arrêtés à Gaza. Mais manifestement, ils ne cherchent aucun débouché politique pour permettre, puisque ce qui se dit, c'est que, par exemple, ça pourrait être une des solutions pour l'avenir, pour négocier, permettant au Hamas de se retrouver dans une coalition avec le Fatah, dirigé par Marwan Barghouti. On peut être d'accord ou pas ici en la salle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des options qui est sur la table et ils sont en train d'essayer de la détruire. Donc, ils ne veulent pas, le gouvernement Netanyahou ne veut pas de compromis et jusqu'au bout, il va tenter, malheureusement, je pense, d'atteindre cet objectif. Bien. Bon, la question maintenant, ça va être de savoir si dans la course contre la montre, entre les opinions internationales, entre ce qui est en train quand même d'un peu de bouger, c'est-à-dire y compris... Vous avez vu comme moi que les Américains ont proposé une résolution qui pouvait sembler hypocrite, etc., mais qui montre quand même que, sur pression d'une partie de leur population, de crainte de Biden de perdre les élections, etc., montre qu'ils sont peut-être prêts à finir par accepter une résolution. La France pourrait d'ailleurs, va en proposer une lundi, et j'espère que ça pourrait déboucher. Donc ça peut être quelque chose qui commence à faire monter la pression. Mais très franchement, il va falloir faire monter beaucoup la pression. C'est-à-dire que tant que, par exemple, qu'on continue à vendre des armes aux Israéliens, tant qu'on continue à pas boycotter leurs produits, tant qu'on continue à pas reconnaître l'État palestinien, je veux dire, j'ai beaucoup d'illusions sur ce qui pourrait permettre à Netanyahou de décrocher, parce que c'est sa survie politique, parce qu'il y a aussi des gisements de gaz au large de Gaza, on le dit rarement, mais qui sont aussi une volonté d'appropriation par des firmes privées israéliennes. Enfin, il y a toutes les raisons pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Voilà. Et on pourra peut-être débattre après de la situation. Moi, je crois qu'il faut plus que jamais continuer à se mobiliser, à faire des déplacements de ce type. Je compte bien en refaire, personnellement, et d'essayer de le faire de se dire au moins qu'on est maintenant à nouveau des dizaines de milliers de personnes à manifester. Je pense qu'il nous faudrait une grande manif nationale. Ça serait, à mon avis, positif dans la situation. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci.